When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce vendredi 3 mars, de retour pour premier épisode en français depuis une courte pause, mais Arpin Basu a toujours tenu le fort. Alors Arpin, tu es de retour avec nous, t'es jamais parti toi, maudit chanceux. Comment ça va?
Ça va bien, puis effectivement... Journée tranquille pour le Canadien ce 3 mars, date limite des transactions, évidemment. Marc-Antoine, s'il a l'air un peu... si ça a l'air qu'il est en train d'enregistrer ça dans une caverne, c'est parce qu'il est dans une salle vide au JW Marriott Anaheim. L'hôtel où réside le Canadien, où aucun des Canadiens ont parlé parce qu'aucun des Canadiens... ont été échangés. Alors, effectivement, la grande salle vide dans laquelle Marc-Antoine se retrouve en ce moment, ça représente en quelque sorte la demande que Ken Hughes a eue pour ses joueurs aujourd'hui. Il y avait de la difficulté à cacher à quel point la demande pour ses joueurs était très mutée, sinon non existant. Il a dit qu'aujourd'hui c'était tranquille en termes de téléphone, en termes des appels qu'il recevait pour ses joueurs. Ce qu'on attendait de lui aujourd'hui, dans le fond, tous les avertissements qu'on ne devrait pas trop s'attendre à grand chose du Canadien à cette date limite-là, s'avérait vrai. Moi, j'avais des doutes que peut-être que Ken Hughes était en train de préparer le terrain au cas où, mais qu'il y avait quelque chose de caché qu'il y avait quelque chose de caché où il allait sortir quelque chose d'un peu surprenant, mais finalement non. Alors, mais il y a quelques sujets qui vaut la peine d'en discuter quand même, même si Canadien n'a pas fait grand-chose, puis on ne devrait pas exclure le fait qu'ils ont quand même fait une transaction, c'était juste pas aujourd'hui. On en a parlé au dernier épisode en anglais, évidemment, mais Evgeny Dadonov contre Denis Gourianov. Mais on a entendu Ken Hughes sur cette transaction-là officiellement aujourd'hui pour la première fois. Mais à ton avis, en écoutant Ken Hughes parler de l'autre bord du continent, c'était quoi tes impressions de sa réaction d'aujourd'hui?
Ben, petite frustration, je pense. Je pense qu'il y a... Il aurait espéré pouvoir être plus actif qu'il ne l'a été. Puis il s'est probablement accroché à cet espoir-là depuis, durant toutes les semaines qui ont mené à la date limite des transactions. Mais tu sais, c'est drôle parce que avant le début de la saison, quand je m'étais assis dans son bureau avec lui, il m'avait dit « Ah, ben on va faire des transactions, ça pourrait être au mois d'octobre, ça pourrait être en janvier, ça pourrait être à la date limite des transactions. Idéalement, j'aimerais ça pouvoir aller chercher un troisième premier choix au repêchage. Puis après ça, ben on pourrait utiliser nos choix puis faire d'autres choses avec ça. » Il semblait avoir tout un plan dans sa tête, une image qui s'était faite de la façon dont il allait pouvoir opérer durant cette saison-ci. Puis, en l'écoutant et en me rappelant ça, je me suis souvenu de la fameuse déclaration de Mike Tyson qui, un jour, a dit « Everybody's got a plan until they get punched in the face.
Ouais, » Tout le monde... Mouth.
Hein?
Punched in the mouth.
Punched in the mouth, c'est ça. Tout ouais, le monde... Tout le monde a un plan jusqu'au jour, jusqu'à ce que tu te fasses donner un coup de poing dans la bouche. Alors, c'est un peu ça. Cette saison-ci, autant ça pue, autant quand on regarde au classement, ça peut sembler plus satisfaisant que prévu au point de vue des résultats. Je pense que le plan maître du directeur général, avec la quantité de blessures qu'il y a eu, ça équivaut à un coup de poing dans la bouche. Et puis, à ce niveau-là, son plan a un petit peu pris le bord. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est un plan qui n'est jamais terminé. Puis, je pense qu'il va pouvoir réajuster le tir. Puis, c'est pas non plus catastrophique. Je pense que ça va être important que le Canadien, à la lumière de ce qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir aujourd'hui, puis des possibilités qui lui restent quand même au cours des prochains mois, s'attarde maintenant à regarder comment on peut réaligner le tir. Puis, ajuster ce qu'on veut faire en fonction de l'échéancier du repêchage, puis dire, OK, est-ce qu'il y a des gars qu'on peut bouger d'ici au repêchage? Comment on peut maximiser notre masse salariale? Et là, la réalité de certains contrats qui vont venir à échéance, etc. Donc, on embarque sur un nouvel échéancier, c'est jamais fini, mais c'est sûr que moi, mon feeling, c'est qu'il y avait quand même une légère déception, une certaine frustration dans dans ses propos aujourd'hui.
Oui, effectivement, il a avoué que, il a dit que des fois, Jeff, il faut qu'il, je sais pas comment dire en français, il dit « he has to tie me to the desk », alors il faut qu'il m'attache à mon bureau,
ouais.
Parce que lui, il veut tellement faire des transactions, puis effectivement, c'est ça la beauté de la combinaison Jeff Gorton et Ken Hughes, c'est Ken Hughes, il commence dans ce métier-là, Jeff Gorton, il a déjà du vécu, et il sait que, ça vaut pas la peine de faire quelque chose à la date limite juste parce que ça te tente ou juste parce que t'as le goût de faire quelque chose. Il faut que ça fait partie d'un plan. Mais, tu sais, le vrai coup de poing dans la bouche de Ken Hughes, c'était vraiment la blessure à Sean Monahan au début décembre.
Tout à fait.
Qui s'est jamais réglée. On a eu un peu de détails sur ce qui s'est passé, mais pas tant que ça, honnêtement. Mais une chose que Ken Hughes a dit vendredi, c'est que Sean Monahan s'est blessé. S'est blessé au pied, il l'a confirmé, parce que tout le monde le savait, parce qu'il portait une botte protectrice, tout le monde l'a vu. Puis, pendant sa réadaptation, il s'est blessé encore. Une autre blessure. Il pouvait pas dire avec 100% de certitude, il était pas 100% certain, mais il disait que l'équipe croyait pas que cette blessure-là était reliée à sa blessure au pied, puis était reliée au fait qu'il a joué avec cette blessure au pied. Mais honnêtement, ce blessure au pied-là a enchaîné une série d'événements dans son cas qui a fait en sorte qu'effectivement, ce troisième premier choix qu'il voulait était plus sur la table. T'sais, parce que je pense que quand il s'est assis avec toi, je ne sais pas nécessairement si à ce moment-là, Kent Hughes voyait Joel Edmondson comme étant son première option pour aller chercher ça. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, et particulièrement après la blessure à Monahan, puis particulièrement à cause du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs avec beaucoup de valeur sur le marché d'échange, au moins pas des joueurs de location en tout cas, que Joel Edmondson devenait une possibilité. Puis Ken Hughes l'a un peu avoué aujourd'hui que peut-être le bruit entourant Joel Edmondson était plus amplifié que la vraie activité autour de lui, oui. Le vrai intérêt en lui. Tu sais, comme nous, on a rapporté plus tôt cette semaine, Pierre Lebrun l'a confirmé à notre collègue aux ondes de TSN, que rendu les derniers jours avant la date limite, il y avait deux équipes, plus ou moins, au moins deux, qui étaient toujours intéressé à Joel Edmondson. Au moins un de ces équipes-là voulait absolument voir Joel Edmondson jouer un match. Et ça explique en quelque sorte pourquoi il a joué contre les Kings de Los Angeles. Mais encore une fois, selon les dires de Joel Edmondson, il aurait pu. Il était prêt physiquement pour jouer aussi. Alors, je pense que la déception de Kent, c'est surtout ça. C'est surtout le fait que des situations qui étaient vraiment hors de son contrôle a fait en sorte que sa date limite de transaction était un peu décevante comparée à ses attentes en septembre de comment cette période-là allait se dérouler.
Mais ce que je trouve paradoxal à propos de Edmundson, c'est que sa blessure, son absence a réduit sa valeur, a fait en sorte qu'il devenait plus difficile à échanger, ça c'est sûr. Mais le fait qu'il soit absent a donné l'occasion aux Canadiens de voir que sa brigade défensive pouvait se passer de lui. Et ça a probablement fait en sorte qu'aux yeux du Canadien, il devenait peut-être plus échangeable qu'il ne l'était au jour 1 de la saison parce que la façon dont les jeunes défenseurs se sont comportés, l'ensemble du groupe de défenseurs qui est à la disposition de l'entraîneur et leur performance, ça a fait en sorte que c'est comme si le Canadien a dû se dire « Ah ben, on est capable de s'en sortir sans Edmundson. Il est probablement meilleur quand il est là, mais on est capable de s'organiser quand il n'y est pas. Puis, on serait probablement mieux, somme toute, à obtenir quelque chose qui aurait une bonne valeur. » Maintenant, quand tu as un seul match à ton actif, quand tu as un seul match pour démontrer, prouver à tout le monde que ton défenseur est en santé, puis que vous n'avez rien à craindre, puis c'est beau, tout va bien aller, c'est court. Et à ce moment-là, ça devient difficile de rassurer tout le monde, puis d'aller chercher la pleine valeur pour un joueur que tu dis, bien, s'il est en santé, c'est clair qu'il serait intéressant pour bien des équipes. Ce serait exactement le genre de défenseur que des équipes qui sont prétendantes à la Coupe Stanley voudraient aller chercher. Mais sauf que le point d'interrogation était probablement trop gros pour que le Canadien décide d'accepter des offres qui seraient clairement amoindries. Alors, c'est pour ça que là, on se retrouve avec Edmundson qui, lui, est certainement content de rester à Montréal. Il avait exprimé son désir de continuer l'aventure avec le Canadien. Fait que ça, tant mieux pour lui, tant mieux pour ses coéquipiers. Jake Allen m'a dit hier, il dit peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça n'arrive pas, on va être très heureux, puis on se croise les doigts en ce sens-là. Alors, sûrement que les joueurs du Canadien vont être contents de voir cette situation-là, mais moi, j'ai hâte de voir si, tu sais, tout à l'heure, je te parlais du fait de l'horizon du repêchage. J'ai hâte de voir si, dans la mesure où Edmundson pourrait garder la santé d'ici la fin de la saison, si ce n'est pas un dossier qui va être revisité à ce moment-là.
Oui, effectivement. Tu sais, ça va être un des dossiers à suivre d'ici la fin de la saison, si Edmundson est capable de rester en santé. Mais tu sais, une chose qui a changé depuis que Ken Hughes t'a parlé dans son bureau, puis aujourd'hui, c'est que, tu sais, puis il s'est fait demander comment tu évalues la saison, puis il a dit que, tu sais, si tu m'avais demandé au début de la saison si on aurait été capable de survivre avec 5 défenseurs recrues dans l'alignement, j'aurais dit non. Tu sais, puis je pense qu'il y a plusieurs des recrues qui ont surpris Kent et tout l'état-major du Canadien, puis même, je pense, le personnel d'entraîneur aussi. Je pense le fait que Arber Jacky a démontré à quel point il est prêt pour la Ligue nationale, qui est quand même étonnant. Il n'a pas joué une minute dans la Ligue américaine. Un gars qui n'a pas été repêché dans la Ligue nationale, ni dans la Ligue de l'Ontario. Caden Gooley, évidemment, connaît une saison vraiment solide, à part sa blessure, mais honnêtement, son retour de blessure, les deux matchs qu'il a joué depuis sa blessure, c'est comme s'il était tout le temps là. C'est comme, honnêtement, pour un joueur recru d'être capable de faire ça, de revenir d'une blessure comme ça, puis démontrer la calme et la confiance dans son jeu. Ce qui est pourquoi, tu sais, j'ai demandé à Ken Hughes aujourd'hui, tu sais, quand tu regardes le groupe de défenseurs du Canadien, puis la façon que le Canadien doit regarder la saison prochaine, Mike Mathieu joue du bon hockey en ce moment, Caden Gooley joue du excellent hockey en ce moment, Arber Jacky jouait du excellent hockey quand il était blessé. Il y a Jordan Harris qui vient de signer un nouveau contrat. Tous des défenseurs gauchers. Hughes a mentionné le fait que Harris et Gooley ont démontré qu'ils sont capables de jouer à droite, mais je pense que dans un monde idéal, ni l'un ni l'autre jouerait à droite. T'sais, il aimerait ça qu'ils soient développés de leur côté fort. Ce qui me fait croire qu'effectivement, comme tu mentionnes, si Edmundson est capable de démontrer à quel point il est en santé, puis à quel point peut-être la douleur au dos n'est pas un aussi grave problème que je pense qu'une bonne partie de la Ligue nationale craignait dans son cas, ou en tout cas les équipes qui s'intéressaient à lui. Peut-être tu peux revoir ça au repêchage, puis aller chercher quelque chose qui aura probablement plus de valeur que ce que Ken Hughes aurait pu avoir aujourd'hui pour lui. Une fois qu'il a fait cette preuve-là, que son corps est pas fragile en ce moment, parce que tu sais, c'est clair que tu veux pas aller... Puis Ken Hughes l'a avoué, tu sais, il a dit que son état de santé... Moi, si j'étais une équipe qui s'intéressait à lui, je serais inquiet, basé sur toute l'information que j'aurais eue de lui cette saison. Alors, pour enlever cette inquiétude-là, ça va ouvrir la possibilité que sa valeur va augmenter, puis effectivement, rendu au repêchage à Nashville, que peut-être Ken Hughes pourrait trouver preneur avec une équipe qui a encore des attentes d'être parmi les équipes prétendantes à la Coupe Stanley pour l'année prochaine, et qui pourrait aller chercher quelque chose pour effectivement créer de la place. Tu sais, Ken Hughes, il a ri quand j'ai demandé la question, parce que étant donné avec toutes les blessures, il a dit, ben, tu sais, je pense qu'il a dit qu'il y a deux matchs cette saison où les Canadiens avaient tous leurs défenseurs en santé.
Oui, c'est assez long.
J'ai de la misère à me rappeler de ces deux matchs-là. Mais je vais le croire, là. Il l'a pas dit pour rien. Mais le fait demeure que t'as pas besoin d'avoir toute ton équipe en santé pour dire qu'il faut faire de la place pour nos jeunes défenseurs, puis faire en sorte que, quand ils sont en santé, qu'il y aura de la place dans l'alignement pour eux pour continuer leur développement. Puis en ce moment, avec la brigade défensive qu'ils ont, c'est sûr que Joel Edmondson, s'il commence la saison de l'année prochaine à Montréal, il va jouer. Et Mike Matheson, il va jouer. Et Kane Gooley doit jouer. Alors là, qu'est-ce que tu fais après ça?
Ben, t'as des gars qui, c'est ça, t'envoies Gooley à droite, t'envoies Harris potentiellement à droite, t'envoies Kovacevic en bas. T'sais, si tout le monde est en santé, c'est sûr que ça devient un groupe qui est particulièrement nombreux, parce que t'as plusieurs joueurs qui ont démontré qu'ils étaient capables de bien jouer à l'échelle de la Ligue nationale, puis... La priorité étant de développer les jeunes joueurs, ben à un moment donné, l'équation, à mon sens, devient assez évidente. Écoute, on a mentionné le nom de Sean Monahan tout à l'heure, très, t'sais, très brièvement. Je veux juste revenir là-dessus. C'est que au détour d'une phrase, Kent Hughes a semblé ouvrir la porte à la possibilité qu'il ne joue plus de la saison. T'sais, il a laissé simplement planer un doute, à savoir, on ne sait même pas s'il va revenir et jouer.
Il a dit que... s'il joue le reste de la saison. S'il joue à un moment donné cette saison, il ne jouera pas à 100%. Alors, dans le fond, je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas à 100%. Alors, dans le fond, il a annoncé qu'il ne jouera pas. Plus ou moins.
Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit dans la façon dont le Canadien va percevoir Monahan et l'idée... l'espèce de plan B original qui était de peut-être lui faire signer un nouveau contrat à court terme. Mais j'ai comme l'impression que cette expérience-là, à la lumière de ce qui est arrivé à Sean Monahan, à la lumière de ce qui est arrivé à Joel Edmondson, je me pose la question à savoir si ça ne va pas, à partir de maintenant, teinter la façon de voir de Kent Hughes, et qu'il va être extrêmement prudent quand il va être question d'avoir dans son équipe des joueurs qui sont fragiles au niveau des blessures. Puis si ce n'est pas une facette de certains joueurs de hockey, peu importe leur qualité sur glace, est-ce que le fait que ce soit des gars qui sont susceptibles de souvent se retrouver à l'infirmerie, ce soit quelque chose qui le décourage? Parce que là, c'est sa première saison complète comme DG, puis... ses opérations ont été un petit peu... lui ont attaché les mains. Là. En fait, il a eu les mains attachées dans ses opérations, dans les choses qu'il voulait faire, à cause de deux gars principalement qui étaient sujets aux blessures, puis qui ont pas pu lui donner le retour attendu. Fait que je sais pas si c'est le genre d'expérience, je parlerai pas d'un traumatisme, mais je sais pas si c'est le genre d'expérience qu'il tire des leçons de ça, puis il va se dire, ouais, ben là, si... comment je pourrais faire pour éviter que ce genre de situation-là se reproduise trop souvent? Tu ne peux jamais avoir des gars qui sont tout le temps en santé dans ton équipe. Tu peux, il y aura toujours des joueurs plus fragiles que d'autres. Mais c'est clairement deux gars qui, comme on dit en anglais, sont un peu des damaged goods à ce moment, à ce point-ci de leur carrière respective.
Ouais, ben honnêtement, je pense pas que ça va l'influencer d'une façon. Tu sais, comme Edmondson, il était déjà là, puis effectivement, tu sais, je pense que. Écoute, le fait qu'il y avait quand même de l'intérêt en Edmondson, je pense que c'était une preuve pour Ken Hughes que, écoute, si on peut garder ce gars-là en santé, on aura quelque chose de bon pour ce gars-là. Peu importe si c'est le repêchage, si c'est la prochaine date limite des transactions, s'ils sont capables de garder ce gars-là en santé, c'est clair qu'il va avoir une demande pour lui.
Ouais.
Dans le cas de Monahan, écoute, Ken Hughes savait ce qu'il recevait. T'sais. C'est pour ça que les Flames ont dépensé un choix de première ronde pour se débarrasser de lui. Puis c'est pour ça que Ken Hughes a été content de prendre ce choix de première ronde-là avec toutes les conditions qui ont venu avec, mais éventuellement, sauf dans des circonstances très peu probables, le Canadien va avoir un choix de première ronde pour avoir pris Sean Monahan des Flames de Calgary. Alors, tout ce que le Canadien pouvait aller chercher cette année, c'était un bonus. Tu sais, honnêtement, là, ils ont déjà eu ce qu'ils espéraient de Sean Monahan. En termes de le signer pour l'année prochaine, je pense que la réalité de Sean Monahan en ce moment, malheureusement pour lui, particulièrement s'il n'est pas capable de revenir jouer, c'est que il n'y a quasiment aucune valeur sur le marché. Alors, je pense qu'il a fait une bonne impression quand même avec le Canadien dans le temps qu'il a joué avec le Canadien. Puis oui, effectivement, je pense que le Canadien serait ouvert à la possibilité de le signer pour un an. Mais je pense que ça serait comme un contrat qui est bâti surtout avec des bonnies de performance et tout ça. Là.
Mais il ne peut pas en avoir des bonnies de performance. Il n'est pas éligible à des bonnies
de performance. Non, ouais, mais il y a quelque chose dans la convention collective qui le rend éligible à ça.
Ah oui? OK.
Oui, avec les blessures, c'est compliqué. Puis j'ai ni la connaissance ni le temps de l'expliquer comme il faut ici, là. Je me suis fait dire qu'à cause des blessures et tout ça, il y a comme une clause dans la convention collective qui permettrait à Sean Monahan effectivement de signer un contrat avec des bonus de performance. Et alors, ça serait surtout ce genre de contrat-là que si le Canadien décide de le ramener, mais ça serait l'autre aspect de ça, ça serait de lui rendre un certain niveau, de lui rendre le service, de lui permettre de jouer dans la Ligue nationale une autre fois, prendre un autre shot, de rester en santé pour que lui-même peut bâtir sa valeur. Puis effectivement, s'il réussit à le faire, le Canadien peut refaire l'exercice l'année prochaine en l'échangeant à la date limite l'année prochaine. Alors, c'est vraiment ça dans son cas. C'est malheureux pour lui et pour le Canadien, mais on verra ce qui va se passer là-dessus. Mais je pense qu'il y a une certaine ouverture du Canadien. Si Sean Monahan, ça l'intéresse ou pas, j'ai aucune idée. Mais on verra. Mais l'autre chose qui est sortie de la disponibilité de Ken Hughes, que je trouvais intéressant, c'est que, écoute, le Canadien, moi j'ai entendu dire que c'est les deux premiers échanges qui ont servi, que le Minnesota Wild a servi comme banque, comme équipe qui allait prendre un quart du salaire de joueur. Mm-hmm. C'était Ryan O'Reilly dans un cas.
Puis le courtier, quasiment.
Le courtier, oui. Ryan O'Reilly dans un cas à Toronto, puis Dmitry Orlov à Boston. Le Canadien a tenté de servir ce rôle-là. Alors, dans le fond, à chaque fois que ça arrivait, ils essayaient de rentrer là-dedans pour aller chercher un choix au repêchage. Finalement, ils ont réussi à le faire vendredi en prenant 25% du salaire de Nick Menino pour faciliter son passage de San Jose de retour à Pittsburgh. Mais quand Ken Hughes a été demandé là-dessus, il a admis qu'il y avait d'autres possibilités de le faire encore. Mais vu qu'ils ont déjà retenu du salaire sur Dadonov, ils retiennent du salaire sur Bonino. S'ils le faisaient encore, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas retenir d'autres salaires ou du salaire sur d'autres joueurs jusqu'au 1er juillet, effectivement, jusqu'au 30 juin, techniquement, mais 1er juillet, ce qui dépasse le repêchage. Il a dit que les Canadiens, au lieu d'aller chercher un choix de 4e ou 5e ronde pour avoir fait ça, ils ont préféré garder ce spot-là ou cette possibilité-là de retenir du salaire pour le repêchage si jamais quelque chose se présente. Ça, c'est intéressant parce que, écoute, on vient de parler de Joel Edmondson. Juste une hypothèse. Disons qu'il y a une équipe, parce que les équipes qui s'intéresseraient à Joel Edmondson, on s'entend, sont des équipes qui se considèrent comme étant des prétendants pour la Coupe Stanley. Alors, ils seront fort probablement vraiment coincés contre le plafond. Alors, s'ils disent que, même au repêchage, ils disent, écoute, on te donnerait ça, ça et ça, mais il faut que tu retiennes la moitié du salaire de Joel Edmondson. Si le ça, ça et ça est assez intéressant pour le faire, le Canadien pourrait le faire. Ou si un autre joueur qui reste un an de contrat et le Canadien est capable de trouver une façon de retenir du salaire sur ce joueur-là, juste en sortant des noms juste de même, disons Mike Hoffman, si le Canadien est capable de trouver une équipe Joel Armia, mais ouais. Joel Armia, il en reste deux. Alors ça, je pense que c'est un peu moins. Mais les joueurs avec un an de contrat qui restent, là, c'est vraiment... Ça ouvre cette possibilité-là.
Ouais.
Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder rendu au repêchage. C'est si... puis aussi, tu sais, dans le cas de Hoffman, on sait jamais, là, si jamais... Écoute, c'est très peu probable. La probabilité de ça est vraiment, vraiment moindre. Mais si jamais il se met à marquer des buts d'ici la fin de la saison, peut-être qu'il compte. Peut-être qu'une équipe serait convaincue que ah, ce gars-là, on aimerait ça l'avoir sur le jeu de puissance. Puis effectivement, s'il aurait été capable de faire ça avant la date limite, on ne sait jamais. Mais la raison que Marc Bergevin l'a signé, s'il est capable de démontrer cette capacité-là de faire fonctionner ou faire vraiment rouler un jeu de puissance comme il faisait dans son prime. Peut-être que Ken Hughes pourrait trouver Panard au repêchage, mais c'est intéressant qu'il trouvait ça assez important de garder cette possibilité-là ouverte au lieu de prendre peu importe le choix qu'il aurait reçu en le faisant tout de suite.
Oui, c'est ça, parce que sûrement que s'il y avait une offre sur la table pour Jonathan Drouin, par exemple, ça aurait impliqué ça. Ça aurait été la seule façon de pouvoir céder Jonathan Drouin ou d'autres joueurs, finalement, pour lesquels il y a peut-être eu des offres et que ça nécessitait de retenir du salaire. Là, dans les circonstances, un cinquième choix, c'est quand même pas si mal. Puis oui, ça lui garde des options ouvertes pour les prochains mois. Ça met vraiment en valeur le fait, tu mentionnes le fait que ils ont droit à 3 transactions de rétention de salaire par année, donc jusqu'au 30 juin.
Mais c'est pas par année, c'est à la même temps. C'est à la...
C'est séquentiel, c'est jusqu'au 30 juin.
Mais donc, c'est jusqu'au 30 juin parce que les contrats viennent en échéance le 30 juin. Mais si tu retiens un contrat pendant 2 ans, disons, alors là, ça compte pour l'année prochaine aussi, là, évidemment.
Ouais.
Le 30 juin, c'est juste l'échéance du contrat, c'est ça. Mais t'as jamais le droit d'avoir plus que 3 en même temps.
Mm-hmm. Alors, mais ça, c'est vraiment symptomatique, je trouve, de l'époque dans laquelle on vit au point de vue de la masse salariale. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment ce qui me frappe le plus à l'échelle de la Ligue nationale cette année, c'est de voir à quel point les équipes se démènent pour pouvoir trouver des façons de bouger de l'argent. Tu sais, il y a tellement que ce soit des joueurs qui sont envoyés sur la liste des blessés à long terme, la multiplication des transactions qui impliquent justement des équipes courtières, des tiers parties, les Coyotes de l'Arizona qui sont encore utilisés comme étant, tu sais, comme l'espèce de
cimetière.
Le cimetière des mauvais contrats puis des joueurs blessés. C'est frappant de voir, tu sais, où les Rangers qui l'autre soir encore ont joué à 16 patineurs au lieu de 18 parce qu'ils avaient manigancé des façons sur leur plafond salarial de pouvoir aménager les choses de façon à ce qu'ils puissent transiger pour Patrick Kane. Il y a toute une sorte d'entourloupette là, qui sont faites et qui sont vraiment le produit d'un plafond salarial qui ne monte pas, d'absence d'argent disponible dans le système et de salaires finalement qui sont quand même élevés chez les joueurs les plus convoités. Alors là, ben, tu te retrouves vraiment avec deux gammes d'équipes, celles qui font de l'espace pour pouvoir alléger, pour pouvoir donner un peu d'oxygène aux équipes compétitives qui, elles, veulent rajouter. Les équipes vendeuses puis les équipes acheteuses se définissent, on dirait, davantage par l'espace qu'elles ont sous le plafond salarial puis la façon qu'elles l'utilisent, presque plus que par leur position au classement. Du moins, ben, les deux s'équivalent. Tu sais.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça qui est important dans le dossier de Josh Anderson. C'est que Josh Anderson, je pense que la demande pour lui était réelle avant cette date limite-là. Mais ce qui était aussi réel et aussi vrai, c'est que les Canadiens n'allaient pas l'échanger pour une valeur moindre. Il n'allait pas l'échanger juste parce qu'il voulait l'échanger. Il veut aller chercher quelque chose pour lui. T'sais, je pense qu'il l'aurait fait à certains points avec Edmonton, juste à cause du risque concernant son dos, puis le risque que ça représente l'année prochaine aussi. S'il y avait une équipe qui aurait payé un prix raisonnable pour lui, ce que je suis plus ou moins convaincu que ça existait, rendu à 3h vendredi, je pense que le Canadien l'aurait probablement fait. Dans le cas d'Anderson, la dynamique que tu viens de résumer, ça diminue sa valeur sur le marché. Parce que Josh Anderson a 5,5 millions de dollars par année. C'est pas un contrat qui est ridicule. Oui, peut-être que les chiffres offensifs ne justifient pas nécessairement ce salaire-là. Même si je pense qu'il est rendu à 17 buts après le but de hier soir à Los Angeles, pourrait terminer avec 22-23 cette saison, ce qui est quand même intéressant, mais c'est son, tu sais, cette nature unique de toutes les combinaisons des choses que Josh Anderson peut faire, et effectivement sa capacité d'avoir un impact en séries éliminatoires sans nécessairement marquer des buts, qui ajoute un peu de valeur dans son cas. Puis cette dynamique-là faisait en sorte qu'il n'y avait pas assez d'équipes qui étaient capables même de penser d'ajouter ce salaire-là sans que le Canadien prend un contrat en retour ou un paquet d'affaires. L'année prochaine, à date limite, on va être à l'aube de la fin de ce dynamique-là que tu viens de décrire. L'association des joueurs devrait, en ce moment-là, avoir repayé toute la dette qui a été accumulée pendant la pandémie. Et les revenus devraient être reliés au plafond salarial en avant de la saison 2024-2025, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, à ce moment-là, à la date limite prochaine, les équipes peuvent prévoir effectivement que le plafond salarial va augmenter par, disons, 5 millions l'année prochaine, ce qui absorbe quasiment totalement le contrat de Josh Anderson pour ces trois dernières années de son contrat. Et ça devient plus plausible pour ces équipes-là de prendre ce salaire-là puis l'absorber dans leur échelle salariale, même s'il reste 3 ans de contrat. Alors, je pense que le Canadien ne trouvait pas que le moment était bien placé ou c'était le meilleur moment de faire un échange avec Josh Anderson à cause du fait que je pense qu'ils ont l'impression que l'année prochaine, la demande va être beaucoup plus forte. Puis ils pourraient même avoir comme une vente aux enchères pour un joueur qui est aussi rare puis que beaucoup d'équipes sont à la recherche d'un joueur comme ça qui a le touche, la vitesse, le gabarit et juste un style physique pour l'insérer pour les séries éliminatoires en sachant ce qu'il a fait avec les Canadiens en 2021.
Ouais. Puis si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est peut-être une leçon à tirer pour les années prochaines, c'est que là, on voit des équipes comme Tampa, comme Toronto, il y en a certainement d'autres, mais c'est vraiment les exemples qui me frappent le plus, de formations qui jouent le tout pour le tout et qui sont prêtes à céder des choix au repêchage. Puis la tendance, quand tu fais des transactions autour de la date limite des transactions, c'est que tu dis, ben, le plus tôt je pourrais avoir mon choix au repêchage, le mieux ce serait. Mais en même temps, ces équipes-là, ça me semble être un autre phénomène lié aux forces du marché en ce moment, c'est que les équipes qui sont all-in sont vraiment all-in. Et ce qui, tant pis si notre réserve d'espoir est vide dans 3-4 ans, si il nous manque de choix hors pêchage pour pouvoir la remplir, on veut gagner maintenant. Mais une équipe qui est vendeuse, la saison prochaine, au lieu de dire ben, « je vais essayer d'aller chercher un bon choix hors pêchage dès le prochain repêchage », c'est de regarder, de viser une année qui, c'est peut-être frustrant parce que c'est plus loin, puis c'est à plus long terme, puis c'est plus abstrait, mais vise pour aller chercher des choix de pêchage qui sont beaucoup plus loin à un moment où cette équipe-là va vraisemblablement s'être écroulée, puis elle va être, ou du moins, va être sortie de sa pleine fenêtre de compétitivité comme Boston, comme Toronto ou Tampa le sont en ce moment, tu sais, alors... je ne sais pas pourquoi je t'amène ça sur le sujet à propos de Josh Anderson, mais ça m'apparaît quand même un truc. On regarde les forces du marché opérer, comment les équipes se comportent, puis il me semble que ça, ce serait un petit avantage stratégique, une petite correction à apporter pour vraiment maximiser la façon d'être vendeur dans un marché comme celui-là.
Ben absolument, puis c'est clair que ça, c'est une tendance qu'on n'a pas vraiment vue au niveau de la Ligue nationale. Tu voyais souvent des choix pour la prochaine année, mais des choix dans 2-3 ans, ça arrivait très rarement. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'NBA. Mais comme un exemple parfait de ça, c'est tu regardes le choix que effectivement le Canadien est allé chercher pour Sean Monahan ou avec Sean Monahan des Flames de Calgary en 2025. C'est que les chances que les Flames de Calgary soit beaucoup moins compétitive en 2025 qu'ils le sont en ce moment. Tu sais, il y a une forte possibilité que Calgary ne fait pas les séries cette année, ce qui veut dire que ça aurait été un choix qui est quand même au milieu de la première ronde, mais c'est possible qu'en 2025, Calgary soit déjà en train d'entamer une certaine reconstruction quelconque. Là. C'est une équipe vieillissante d'une certaine façon. Moi, si j'avais le choix entre le choix de cette année, même avec la QV qui est vraiment bonne, ou le choix en 2025 des Flames, moi, je prendrais le choix en 2025. Et je pense qu'il y a plusieurs équipes. On va regarder en 2025 et 2026 quand ces choix-là commencent à être transférés, où on va se rappeler de cette année-là où tous ces choix ont changé de main pour la première fois. Puis se demander comment ça se fait que cette équipe-là a décidé d'échanger ce choix-là. Mais la situation étant ce qu'elle est avec plusieurs de ces équipes, tu sais, comme Boston, même Tampa d'une certaine façon, et évidemment, on connaît toute la situation à Toronto. Tu sais, il y a un certain sentiment d'urgence qui existe avec beaucoup plus d'équipes que d'habitude. Alors, c'est intéressant à regarder. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que Ken Hughes voulait absolument faire partie de ça, parce qu'il y avait comme une certaine, un frenzy, un vrai, il y avait vraiment
une frénésie,
ouais, c'est ça en français, pendant la dernière semaine, deux semaines même, et de voir tous ces choix-là qui changeaient de main sans que le Canadien soit là-dedans, je pense que ça le dérangeait un peu, mais il fallait accepter la réalité que c'est bien beau être vendeur, là, mais pour être vendeur, il faut que tu aies des choses que le monde veut acheter. Puis, je pense pas qu'un Canadien avait grand-chose que le monde voulait acheter. Là.
Non, ça, c'est clair. Le Canadien a quand même procédé à une toute petite transaction, à part celle où il a été impliqué comme tiers partie dans l'échange de Nick Bonino. Ils sont allés chercher un défenseur du nom de Frédéric Allard des Kings de Los Angeles. Pendant un moment, je me suis posé la question à savoir si le Canadien, dans le fond, ne s'assurait pas d'avoir sous la main un défenseur disponible qui était déjà en Californie au cas où Justin Barron ne serait pas disponible pour le match de ce soir à Anaheim et que Joel Edmondson changerait d'adresse. Mais finalement, alors, il va prendre le chemin de Laval. Le Rocket est dans une essai de se replacer dans la course aux séries éliminatoires. Le Canadien va essayer de lui faire, lui donner le coup de main autant que possible pour pouvoir y arriver. Donc, ils ont cédé un gars qui n'était plus du tout dans les plans, le Nate Schnarr. Puis, les défenseurs du Rocket ont grandement besoin d'aide. Puis, c'est quand même un gars qui est très bien établi à l'échelle de la Ligue américaine. Et parallèlement à ça, le Canadien a fait des transactions qu'on pourrait appeler des transactions sur papier, c'est-à-dire de céder des joueurs qui sont dans la Ligue nationale. On les renvoie sur papier à la Ligue américaine pour les rendre admissibles à participer aux séries éliminatoires de la Ligue américaine. Et après ça, ces gars-là sont rappelés automatiquement. Donc, ils ne changent pas physiquement de place. Ils restent avec l'équipe de la Ligue nationale. C'est pour ça que c'est une transaction sur papier. Et le fait qu'ils soient rappelés immédiatement, ça compte pour parmi les 4 appels auxquels ils ont droit après la date limite des transactions. Donc, tu peux soumettre 4 joueurs donc qui sont pour ces transactions sur papier-là, puis après les utiliser tous les 4 pour des rappels. Le Canadien planifiait en utiliser 3 avec Raphaël Harvey-Pinard, Jesse Ylönen et puis Justin Barron, sauf que Justin Barron s'est blessé hier à Los Angeles et puis à cause de ça, il ne peut pas être cédé à la Ligue américaine. Je me suis posé la question à savoir est-ce que c'était un joueur blessé, dans le fond, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas quel est son statut, est-ce que tu vas gaspiller un rappel, un de tes 4 rappels sur un gars dont tu n'es même pas certain de l'état de santé, mais j'ai vérifié, puis tu ne peux carrément pas céder sur papier.
Non, c'est contre les règlements, un gars qui est blessé. T'as pas le droit. C'est ça. Pour ça qu'à chaque année, il y a des joueurs... tu te rappelles, il y avait un an où Mathias Norlinder s'est blessé au camp d'entraînement. Puis à rester jusqu'à temps qu'il soit en santé avant qu'il soit... Tu peux pas le bouger. Tu peux pas bouger un joueur blessé.
Et tu Emil Heinemann, ça a été la même chose aussi.
Ouais, c'est ça. C'est, on le voit à chaque année. T'sais, Logan Mailloux, je pense qu'on a eu quelque chose de similaire cette année. Alors, c'est ça. C'est ce règlement-là. Tu peux pas envoyer un joueur blessé dans la Ligue américaine, même si c'est juste une transaction papier. Puis c'est ça, Ken Hughes a même avoué qu'ils ont demandé à la Ligue s'il y avait le droit de renvoyer Justin Barron, puis on dit non.
C'est ça. Fait que là, ça élimine la possibilité d'envoyer Juraj Slafkovský, d'ailleurs, potentiellement aider le Rocket en fin d'année. Même que le Canadien, je pense que Ken Hughes t'a dit qu'il n'y avait même pas d'intérêt. En fait, non, c'est pas à toi, c'est quelqu'un d'autre qui lui posait la question, à savoir s'il y avait un intérêt à l'envoyer au championnat du monde. Mais sauf que, évidemment, on va le laisser. Le Canadien va le laisser reprendre la forme puis qu'il soit de retour en pleine santé l'automne prochain. Sauf que je trouve que toute cette dynamique-là est intéressante aussi parce que il y a un souci de faire en sorte que même si la saison a rapidement pris l'eau à Montréal, il y a un souci de faire en sorte que s'il y a des chances de séries éliminatoires pour le Rocket de Laval, le Canadien ne les oubliera pas puis ils vont essayer de s'arranger pour pouvoir les aider. Puis je pense que la transaction d'aujourd'hui avec Frédéric Allard le démontre.
Oui, puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier avec le Rocket de Laval, oui, effectivement, Ken Hughes a dit que c'est Juraj Slafkovský qui n'irait pas au championnat du monde. Je l'ai demandé s'il y avait... S'il pensait que peut-être ça aurait eu de Barron de faire une transaction sur papier pour Caden Gooley pour qu'il puisse participer aux séries éliminatoires. Puis il a dit non à ça aussi parce qu'il jouait beaucoup de hockey l'année passée. Puis avec sa blessure et tout, je pense qu'il préférait lui donner le repos. Mais l'aspect intéressant, la motivation pour le Canadien, à part le bon développement de leurs joueurs, puis à part le fait que du hockey des séries éliminatoires, ça aide à toute l'organisation, c'est la possibilité que Sean Farrell se débarque à la fin de sa saison en université et peut-être même, tu sais, et si le Canadien signe un autre espoir qui joue au niveau collégial, ce joueur-là, il y aurait la possibilité de l'insérer à Laval. C'est comme, c'est, il pourrait le signer à contrat de la Ligue américaine. Ça, tu as le droit de le faire. Alors, il y a certaines possibilités là. Que pourrait, si Laval fait les séries, on pourrait voir un gars comme Sean Farrell participer aux séries avec le Rocket de Laval. Je pense que ça, c'est une possibilité qui intéresse beaucoup le Canadien et les motifs d'effectivement aider Laval à se rendre là. Mais juste en passant sur Frédéric Allard, je suis un peu content pour lui parce qu'il faisait vraiment comme... Il y avait vraiment beaucoup de discussions autour de cette transaction-là. Tu sais, la théorie que tu viens de mentionner, où le Canadien ont transigé au cas où qu'il était capable de réussir une transaction de Joel Edmondson. Je pense que dans la carrière de hockeyeur de Frédéric Allard, il n'a jamais été autant le sujet de conversation pendant comme une heure. Alors, je ne sais pas à quel point il a digéré ça. C'était drôle. Il a fait une disponibilité média après l'échange. Il était à un aéroport quelconque. J'imagine que c'était l'aéroport de San Jose. En tout cas, ça avait l'air de ça. Je pense que je l'avais... Mais le Rain d'Ontario était à San Jose aujourd'hui. Il faisait ça sur ton téléphone. Il y avait des moments où on voyait juste le plafond de l'aéroport ou l'extérieur. Alors, c'est ça. C'était... Puis le Canadien, je pense que ça démontre aussi à quel point le Canadien était confiant qu'il n'allait pas échanger Joel Edmondson parce que le Canadien a tout de suite annoncé que, il nous a tous dit que non, Frédéric Allard s'en va à Laval aussitôt qu'il peut, il va aller rejoindre le Rocket, il ne jouera pas ce soir à Anaheim. Alors dans le fond, même là, c'était un bon deux heures et demie avant la date limite ou l'heure limite des transactions. Je pense qu'il y avait déjà une idée qu'il n'y aurait pas besoin de Frédéric Allard ce soir à Anaheim parce que Joel Edmondson s'en allait nulle part.
Ben, tu sais, j'ai parlé tout juste avant que cette transaction-là soit annoncée. Je parlais avec un membre du personnel d'entraîneur de l'équipe. Puis je posais la question. Je disais, si Edmondson s'en va et que Barron ne peut pas jouer, vous allez jouer à 5 défenseurs. Puis le coach a pris une petite pause. Puis il a dit, ben, écoute, il y a des équipes. Il y a des matchs où tu commences avec 6 défenseurs, il y en a un qui se blesse rapidement, puis tu joues la majorité du match à 5 défenseurs. Ben nous, on en jouerait un à 60 minutes au complet, je suppose. Mais il était
quand même assez certain que ça n'allait pas arriver.
Moi, probablement. Ouais. Ben c'est bon. Ben écoute, je pense que ça fait le tour, Harpin. On a.
Ben, ça fait le tour de pas grand chose. C'est comme ça l'affaire. C'est que on a réussi à faire le tour de rien. Ouais. c'est vraiment, c'est un peu ça la date limite, mais on n'en a pas parlé en fait, juste avant de vous quitter, c'est Ken Hughes, il en a parlé un peu de l'arrivée de Denis Gourianov, et je pense qu'il a fait une petite précision qui différencie un peu son cas avec celui de Kirby Dach. T'sais, je pense que, moi je l'ai dit, puis je l'ai écrit même, que c'est pas exactement la même situation, mais peut-être que le principe était le même d'aller chercher Gourianov pour essayer de revoir son développement d'une différente façon que son ancienne équipe, comme ils ont fait avec Kirby Dach. Ouais. Ken Hughes a été demandé ces questions-là directement aujourd'hui, puis il a mentionné le fait que c'est pas comme si Gourianov n'avait pas d'opportunité avec les Stars de Dallas. Il y en a eu plein. Alors, c'est vraiment, ils sont en période d'évaluation avec lui, mais l'élément déclencheur ou l'élément important pour Ken Hughes dans ce dossier-là ou dans cet échange-là, c'est que Gourianov a déjà démontré une capacité de marquer des buts dans la Ligue nationale. C'est une valeur connue d'une certaine façon, puis les autres qui ont fait leur recherche là-dessus. Et ça, ça vaut la peine beaucoup plus que chercher un autre choix de cinquième ronde. Je pense que Ken Hughes il a dit à la blague qu'il n'avait plus le droit d'ajouter un choix de quatrième ronde cette année, vu qu'il y en a déjà 3. Alors, je pense que peut-être Jeff Gorton a dit non, on ne cherche plus ça. Alors, tout ça pour dire que d'ici la fin de la saison, puis après 2 matchs, on s'entend que les impressions sont bonnes concernant Denis Gourianov, mais il est aussi connu Des périodes de 2, 3, 4 matchs à Dallas où ça allait bien, puis ça s'est suivi souvent par des périodes de 3, 4, 5, 6, 8, 10 matchs où on ne voyait pas grand-chose de lui. Alors, on verra ce que ça donne. Mais c'est une... je n'ai pas changé la façon que je vois ça. C'est un bon pari pour le Canadien. Mais cette précision-là de Kent, je trouvais ça intéressant que oui, en principe, c'est un peu peut-être un peu la même chose que Kirby Dach, mais on sait... C'est pas comme si ce gars-là n'a pas eu d'opportunité. Nous, on lui donne une autre, mais ça reste que lui, il doit prendre cette opportunité-là puis nous démontrer quelque chose qu'il n'a pas démontré à Dallas encore. Alors, il y avait un peu plus de doute dans la voix de Ken Hughes que quand il parlait de Kirby Dach, par exemple, après cet échange-là.
Ouais, puis il y a quand même 4 ans de plus aussi, Gourianov. Fait que c'est 4 ans.
Ouais, on va avoir 26
ans. C'est 4 ans d'opportunité de plus par rapport à Doc. Je pense que ça rentre en ligne de compte. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée de dire, bon, mais quelles sont nos chances si on obtient un retour de Dadonov, par exemple, un choix de 4e ou 5e ronde, d'aller chercher un gars qui pourrait éventuellement devenir Denis Gourianov. Aussi imparfait soit-il, aussi inconstant soit-il, ou qu'il a été depuis le début de sa carrière, quelles sont nos chances qu'en pigeant en 4e, 5e ronde, on ait ce type de gars-là? Moi, je trouve que c'est là où le pari est particulièrement intéressant parce que ta matière brute avec laquelle tu travailles est extrêmement intéressante. Puis c'est juste, en quelque sorte, de trouver la clé, de trouver une réponse à l'énigme. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, tout le réseau, toute l'infrastructure que le Canadien est en train de construire cette année, que ce soit par son équipe de développement, que ce soit par ses entraîneurs, que ce soit par cette fameuse culture que Martin Saint-Louis prône chez ses joueurs, puis l'établissement de nouveaux standards, tout cet environnement-là, j'ai l'impression que Gourianov est un peu le premier à arriver en milieu de saison puis à être plongé dans ce bain-là puis dire « OK, toi, tu vas être comme notre premier test à savoir si cet environnement-là aide quelqu'un de l'extérieur à maximiser son talent puis à être bon. » T'sais, c'est sûr qu'il y a une partie de l'équation qui est dans les mains de Gourianov lui-même, puis je ne pense pas qu'il va devenir bon strictement à cause des gens qui l'ont.
La plus grande partie, oui, c'est ça.
Ben oui, c'est partie. Les réponses lui appartiennent. Sauf que, tu sais, à un moment donné, peu importe que tu aies changé d'entraîneur 2-3 fois, si tu es dans le même environnement depuis des années, puis peut-être que lui, à Dallas, il devait se dire, peu importe sur quel trio je joue ou quel entraîneur me coach, je suis arrivé au bout. Les équipes sont toujours ouvertes à donner une deuxième chance à un joueur. En fait, à lui donner une chance dans une deuxième organisation. C'est après ça que ça se met à déraper. T'sais. Mais à partir du moment où tu as fait le tour du jardin dans une première organisation, il y a une autre équipe qui peut prendre le relais et dire « OK, nous, on va voir si ça fonctionne. » Puis quand ça fonctionne pas, ben tu deviens Alex Galchenyuk, puis tu te mets à te promener d'une organisation à l'autre, puis c'est fini. T'sais. Fait qu'il y a pas de, t'sais, il y a certainement pas de promesse de réussite, mais je trouve que quitte à aller chercher justement un 4e, 5e choix, le gamble en vaut vraiment la peine.
Oui, effectivement, parce que dans le fond, même avec un choix de 4e ronde ou de 5e ronde, les chances sont minimes que tu vas avoir un gars qui a marqué même un but. Qui va marquer un but dans la Ligue nationale, puis le Canadien l'a déjà eu, ce but-là. Alors, les chances sont très bonnes que le Canadien est déjà gagnant dans cette décision-là.
Ben, en termes de style de jeu, je trouve déjà, après deux matchs, je vois plus de complicité entre Suzuki et Gourianov que Suzuki a pu en développer avec Mike Hoffman. En ce moment, Mike Hoffman se patine sur ce trio-là. Il est comme une espèce de satellite en orbite. Il se promène autour, puis il n'est pas particulièrement impliqué. Mais à chaque fois qu'il y a des montées offensives sur ce trio-là, depuis deux matchs, ça implique Gourianov et Suzuki. Je trouve ça prometteur jusqu'à un certain point.
Ouais, c'est prometteur à un certain point. Puis un autre point, ça dit long sur Mike Hoffman.
C'est ça.
Ouais.
Hey, tout le monde, aujourd'hui, on n'a pas répondu à vos questions sur la boîte vocale, mais cela étant dit, c'était la date limite des transactions et tout, mais on vous invite tout de même à le faire, à nous laisser des messages, puis dans les épisodes suivants, on va le faire avec un grand plaisir. Fait que vous avez juste à appeler le 646-847 9404-646-847-9404. Vous nous laissez un message. Vous nous posez une question, on va la faire jouer, mais rendu là, vous le savez, vous l'avez entendu à cette fois, mais ça nous fait toujours plaisir de débattre à partir des questions que vous nous envoyez. Alors, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Alors, sur ce, Arpin, je vais te laisser, je vais me diriger vers le Honda Center où le Canadien a un choc de titan, un rendez-vous avec l'histoire ce soir contre les Ducks d'Anaheim. Alors, nous, on se reparle lundi pour... Ouais. The Athletic Support?
Un gros match de 4 points en termes du loterie du repêchage. Oui, effectivement, on se reparle lundi avec The Athletic Support. Puis moi, je m'en vais écrire. Alors, okay. Merci tout le monde.
Bye bye.